Un pèlerin, on va voir le pèlerin en termes du sens biblique du terme, à savoir que c'est quelqu'un qui comprend que nous sommes de passage sur cette terre, qui comprend que même les meilleurs endroits, même le meilleur de chez soi, n'est pas ici-bas, sur terre. Quelqu'un qui, comme ces immigrants qu'on avait juste avant, aspire à une meilleure vie, à une meilleure place. Sauf que cette place-là, ce n'est pas le New York, ce n'est pas l'American Dream. Non, mais c'est celle de cette cité céleste, celle de l'éternité dont on va voir. Et pour ce thème, on va lire le chapitre 11 d'Hébreux, à savoir les versets 8 à 16. Hébreux 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, lorsqu'elle crut à la fidélité de celui qui en avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient vu en celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voici pour la parole de Dieu. C'est quoi un pèlerin? C'est quelqu'un de passage sur terre qui a en vue une meilleure destination, à savoir cette cité céleste. Et donc, on va avoir trois aspects du pèlerin. Et la première chose qu'on va voir, c'est la suivante, à savoir la mentalité du pèlerin. Qu'est-ce que l'on peut voir dans ce texte? On voit qu'il y a un terme, une certaine début de phrase qui est répété plusieurs fois, à savoir c'est par la foi. Ceux qui connaissent Hébreux 11, on connaît le chapitre des zéros de la foi, et le terme foi est employé énormément de fois, je ne les ai pas comptés d'ailleurs. Voilà. Que voit-on? Par la foi, Abraham est parti dans un pays étranger. Et on nous dit qu'il ne savait même pas où il allait. Aujourd'hui, on a une invention très utile, à savoir le GPS. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien savoir où on va. Encore hier, avec les jeunes, on était pris dans les bouchons et je disais, ah, est-ce qu'on ne devrait pas changer de direction? Et Timothée, qui était le copilote, me dit, non, Aurélien, fais confiance au GPS. Il pourra vous l'affirmer. Et moi, je ne sais pas vous, mais j'aime bien savoir où je vais. Même quand lorsqu'on fait des randonnées entre amis et que ce n'est pas moi qui suis le guide, j'aime bien au préalable regarder les petits chemins, les raccourcis, où est-ce qu'on va. Je fais parfois confiance au GPS, parfois même au vôtre. Sauf qu'Abraham, il ne savait pas du tout où il allait. Son GPS à lui, c'était Dieu. Et comme ces migrants, ils ont quasi presque tout quitté, hein, parce que Dieu leur avait dit d'y aller. Dieu avait une histoire différente pour eux qu'ils auraient pu imaginer en restant là-bas où ils étaient, en Chaldée. C'est bon maintenant? Le micro s'est découpé. Ils ont tout quitté, leur terrain, leurs habitudes, leur confort, parce que Dieu leur avait dit d'aller là-bas. Dieu avait un plan différent que celui qu'ils avaient en tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette promesse hein, dans Genèse, dans le début de la Genèse, une promesse qu'on pourrait résumer en 3 P. La promesse d'un pays, cette terre promise hein, qui va être au centre de pas mal de livres de la Bible. La promesse d'un peuple, d'une postérité nombreuse, d'une nation. Et enfin, la promesse de sa présence, les 3 P. Hein. Pays, peuple, présence. Sauf que voilà, pour le pays, ben, Abraham devait quitter quasiment tout ce qu'il était cher, sa famille, ses amis, sa sécurité, son confort. Pour le peuple, Dieu lui promet une descendance, sauf que lorsqu'il reçoit cette promesse, il était âgé d'à peu près 75 ans. Ce texte en hébreu nous dit que Sarah elle-même était d'un âge déjà avancé. Et à mesure que les années passaient, près de 25 ans avant que cette promesse se réalise, on peut s'imaginer à quel point cette promesse devenait de plus en plus impossible à ce qu'elle se réalise. Promesse d'un pays, c'est compliqué. La promesse d'une nation, d'une descendance, c'est compliqué également. Alors pourquoi Abraham a-t-il choisi de faire ça? Pourquoi Abraham a-t-il choisi de suivre Dieu? Ce qu'on voit, c'est que ces deux choses-là, ça a un coût. Et si on regarde la vie d'Abraham dans la Genèse, on voit qu'il est passé par des hauts et des grandes victoires. Il est passé également par des bas, des défaites, des moments d'épreuve, de solitude. Et pourtant, malgré tout ça, il a choisi de suivre Dieu. Il avait la foi que malgré le coût COUT, ça valait le coût COUP. Et si tu es finalement un pèlerin, toi aussi, si tu es un enfant de Dieu, tu dois, comme Abraham, avoir cette mentalité. Dieu a un plan pour toi, il a préparé quelque chose pour toi. Et quand je dis ça, ça ne veut pas forcément dire voyager, hein, ça ne veut pas forcément dire aller en mission à l'étranger, ça peut être de manière locale également, là où Dieu t'a placé, que ce soit dans ton travail, dans ton école, dans ton université, auprès de ton voisinage, dans ta famille, dans ton église. Dieu a un plan pour toi. Il y aura des hauts, il y aura des bas, certes. Mais est-ce que comme Abraham, tu es prêt à le suivre par la foi? Ce qu'il veut juste que tu apprennes à le connaître davantage et que tu puisses davantage lui faire confiance. Finalement, si on devait résumer ce premier point, ce serait le suivant. La mentalité du pèlerin, c'est quelqu'un dont la vie est conditionnée par Dieu et par son appel. Quelqu'un dont la vie est conditionnée par Dieu. Pas par ses propres choix, pas par ses propres décisions, mais par ceux de Dieu. Es-tu comme Abraham, prêt à le suivre, à lui faire confiance par la foi, et ce malgré le coût? Un grand théologien qui s'appelle A.W. Tozer disait ceci: le bon gros sens devrait nous faire comprendre que si ce que nous croyons ne change rien dans notre vie, cela ne fait aucune différence pour Dieu non plus. Est-ce que notre foi, est-ce que la manière dont notre vie est conditionnée par Dieu, elle a un changement dans notre vie? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change notre mentalité au quotidien? Est-ce que ça change nos prises de décision, nos choix au quotidien? Je vous laisse avec cette citation. Voici pour la mentalité du pèlerin. On va maintenant voir le deuxième point, à savoir, après lamenter, la motivation du pèlerin. Ce que nous apprend ce texte, c'est que lorsqu'ils sont partis du coup dans cette terre promise, Abraham et sa famille, tous ceux avec qui il était, sont allés habiter sous des tentes. C'est-à-dire qu'à l'époque, les tentes, hein, ce n'est pas les tentes d'aujourd'hui, c'est des habitats fragiles. À la moindre tempête de sable ou autre, boum, il n'y a plus rien. C'est un endroit portable, temporaire. Alors pourquoi ils ont choisi d'habiter dans des tentes? Le dernier verset au chapitre 16 nous répond à cette question, mais maintenant ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. En fait, ils aspiraient à une meilleure place. Ils savaient que ce qu'ils vivaient, c'était temporaire et qu'ils aspiraient à une place bien meilleure. Ils ont compris qu'aussi riche on puisse être, aussi aisée puisse être notre vie, peu importe à quel point elle puisse être incroyable, comblée, autant de biens, de richesses qu'on puisse avoir, elle ne sera qu'au mieux la seconde meilleure des places. Elle ne pourra jamais être aussi satisfaisante que celle qu'ils avaient en vue, que celle d'une cité éternelle qui nous attend. Alors pour eux, pas besoin de chercher un confort à l'instant T, pas besoin de vivre dans un habitat plus confortable, parce que quelque chose de meilleur nous attend. Et finalement, nous aussi, on a des rappels constants que la vie est temporaire. Les fleurs fanent, les goûts changent, les cheveux tombent, les couples se font et se défont. De même que notre satisfaction dans les choses sont temporaires. Le jouet qu'on a reçu à Noël, ou les cadeaux qu'on a reçus à Noël, nous ont produit une joie immense, j'imagine, à l'instant T, mais qu'en est-il un mois après Noël? La satisfaction n'est plus la même, elle n'est plus au rendez-vous là. Elle n'est plus là, on en veut plus, on en veut encore plus, on veut autre chose. Le monde dans lequel nous vivons est temporaire et plein de choses nous le rappellent. La question, est-ce que tu crois qu'il y a plus que ce que tu vois devant tes yeux, ce que tu vois devant toi? Il y a une réalité céleste bien bien plus réelle que celle que tu as devant tes yeux. Est-ce que tu crois cela? Autre chose importante, c'est de se rappeler que lorsque notre destination est claire, notre voyage, notre aventure prend tout son sens, même si on ne sait pas de quoi il sera fait. Abraham a reçu une promesse que sa descendance serait plus grande que les étoiles dans le ciel, qu'il posséderait un territoire immense. Est-ce que vous savez pourtant qu'à la fin de sa vie, Abraham, qui devait posséder un pays entier, il va devoir même se résoudre à acheter un petit lopin de terre à Hébron pour enterrer sa femme. Abraham n'a jamais vu de son vivant l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Mais il avait foi que ses promesses allaient se réaliser, comme il dit ce texte. Il n'a pas connu ses promesses, mais il les a saluées de loin. Et ce que nous aussi nous vivons, c'est un peu la même chose. On ne vivra pas l'entièreté de toutes les promesses de Dieu. C'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore en théologie. Mais un jour, nous vivrons tous pleinement, entièrement, dans cette cité céleste. Quand notre destination est claire, notre voyage, notre aventure prend tout son sens. Et je voulais, avant de finir ce point, vous parler de présenter deux personnages. Vous voyez sur l'écran. Alors, la personne à droite, ça m'étonnerait que vous la connaissiez, mais la personne à gauche, peut-être que vous avez une petite idée. Il s'agit de Toutankhamon. Bonne réponse. Toutankhamon, il faut savoir que c'est un pharaon en Égypte, dans à peu près 1300, les années 1300 avant Jésus-Christ, qui est mort assez jeune, à l'âge de 18 ans. Lorsqu'il est mort, il a été enseveli avec plein des tonnes et des tonnes d'or, on parle d'un tombeau royal, des tonnes de trésors, de nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'espoir, dans l'époque, qu'il pourrait les emporter avec lui dans sa tombe. À droite, nous avons William Borden. William Borden, lui aussi, est issu d'une famille très riche de Chicago. Il a été diplômé de Yale et de Princeton, ce sont deux universités prestigieuses aux États-Unis, plus grandes du monde entier d'ailleurs. Donc finalement, il avait un avenir tout tracé pour lui, diplômé de grandes écoles. Et pourtant, il a refusé de conserver toute sa fortune pour devenir missionnaire en Chine auprès des Ouïghours. Ce qu'il a fait donc, c'est qu'il a quitté ses études. Il est parti en Égypte étudier l'arabe et certains dialogues de Chine pour pouvoir évangéliser auprès des Ouïghours. Sauf que pendant ses études en Chine, il va attraper une méningite et il va mourir un an plus tard à l'âge de 25 ans. Finalement, Toutankhamon et William Borden, ils ont quelque chose en commun. Tous les deux étaient promis à leur plus jeune âge à un avenir brillant, à la richesse. Sauf que tous les deux sont morts très jeunes. Les deux sont enterrés en Égypte. L'un est enterré au Caire, la capitale. L'autre était enterré un peu plus loin dans le désert, auprès des pyramides. Deux hommes vouaient un avenir brillant à la richesse et qui meurent trop jeunes, sans avoir pu tout accomplir. Finalement, leur vie est en quelque sorte similaire, mais ce qui les différencie, c'est plus leur mort. Pourquoi ? Parce que, alors que Toutankhamon, dans sa mort, essayait de prendre un maximum qui puisse et les emporter avec lui. On se rappelle, un tombeau rempli d'or, de trésors, de nourriture, de toutes bonnes choses pour les emporter avec lui. William Borden, à la place, est allé jusqu'à tout abandonner, tout ce qu'il a pu hériter de ses parents du monde, parce qu'il savait qu'un meilleur monde l'attendait. Parce que William Borden avait, comme Abraham et Sarah dans ce texte, une cité en vue si merveilleuse qu'il était prêt à tout. Si un jour vous avez l'occasion de passer à la faculté théologique de Princeton, un endroit très magnifique, vous verrez cet homme-là, William Borden, qui est affiché parmi pas mal de théologiens plus connus et de grands missionnaires de l'époque, en parlant de John Taylor, qui aussi était missionnaire en Chine. Vous verrez son affiche et juste en dessous, vous verrez une phrase qui serait attribuée qui dit « No reserve, no retreats, no regrets », c'est-à-dire « sans réserve, sans retour et sans regret ». Vivre une vie de pèlerin, finalement, c'est ça. C'est comprendre que notre monde est temporaire et qu'un meilleur monde nous attend. Est-ce que cette réalité-là, face à notre vie, nos décisions, nos plans, nos priorités, est-ce que cette réalité nous pousse, comme William Borden, à suivre l'appel de Dieu, sans réserve, sans retour, et sans regret? Alors, il y a une dernière, ultime motivation que je vais vous dire juste après pour vous. Voilà, justement, pour que vous puissiez comprendre. Mais avant ça, on va parler du troisième point, à savoir le modèle du pèlerin. On a vu la mentalité du pèlerin, à savoir une vie conditionnée par Dieu. On a vu la motivation du pèlerin, à savoir qu'il comprend qu'il est dans une place temporaire, ayant vu une cité céleste. On va voir maintenant le modèle du pèlerin. Parce que finalement, depuis tout à l'heure, je vous parle de cette cité céleste, cette cité avec de solides fondements, comme nous dit Faith. Mais la question est, est-ce qu'on mérite cette cité? Est-ce qu'en faisant de bonnes actions pour Dieu, en lui vendant tout notre temps, notre argent, notre vie même, on mérite cette cité? Est-ce que simplement en allant à l'église tous les dimanches matin, est-ce qu'en lui offrant notre argent, notre dîme, est-ce que parce qu'on sait citer par cœur Jean 3,16 ou Jean 3,6, hein, pour les jeunes qui comprendront la référence, ça nous fait mériter cette cité? La réponse est non, absolument pas. Parce que malgré toutes ces choses, malgré toute notre meilleure volonté, comme Abraham, il arrive que nous chutions. Nous nous mettons en colère, nous mentons, et quotidiennement nous transgressions, au moins en pensée la plupart, voire la majorité, des 10 commandements de Dieu. Et à cause de tout ça, la Bible dit que nous sommes séparés de Dieu, incapables d'être dans la présence de ce Dieu saint, de ce Dieu 3x5 comme on l'a prié tout à l'heure. Et c'est pour ça que le modèle du pèlerin est d'une importance capitale, parce que ce modèle-là, c'est Jésus. Jésus a scellé notre salut et rendu possible notre entrée dans cette cité céleste. Comment? En devenant un pèlerin premier. Jésus a scellé notre salut en devenant un pèlerin lui-même. Alors, si on prend le cas de Jésus, finalement, c'est un peu, en quelque sorte, un pèlerin inversé, je vais vous expliquer. Lorsqu'on avait vu les immigrants, ils quittaient un endroit dans lequel ils vivaient pour vivre dans un endroit meilleur. Ils aspiraient à une meilleure place. Sauf qu'en fait, Jésus, il a fait totalement l'inverse. Il a quitté la meilleure des cités, le ciel, aux côtés de son Père pour aller venir sur Terre, cette deuxième meilleure place au mieux dans laquelle nous vivons. C'est d'ailleurs ce qu'on a fêté il y a plus d'un mois à Noël. Dieu fait homme et en tant que bébé dans une étable. Ah, alors vous allez me dire, il y a plein d'histoires de personnages qui ont quitté leur vie de fortune pour aller vivre dans un endroit plus petit, plus simple. Il suffit d'ouvrir Netflix et de voir tous les films comédies romantiques qui y sont. Je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste, mais j'en ai vu quand même quelques-uns. Et il y en a pas mal qui nous parlent de ça, de ce prince, de cette princesse qui quitte sa vie de château, sa vie de richesse, pour aller vivre l'amour et dans le pré, par amour. Et finalement, ceci, c'est un peu ce que Jésus a fait. Par amour, il est venu quitter le ciel pour venir pour nous. On l'a chanté tout à l'heure dans le chant « Une seule église ». Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, malgré notre rébellion, il est venu payer la rançon. Jésus est venu parce que c'était la volonté du Père et qu'il nous aimait. Parce qu'il nous aime et qu'il voulait que nous soyons pour l'éternité avec lui. Il savait que cette cité, on la méritait pas, qu'il fallait que quelqu'un paye, que nous puissions être rattachés à lui, pour que nous puissions mériter cette cité. Nous pas mériter, mais pouvoir être avec lui pour l'éternité. Mais surtout, il est venu parce qu'il savait que, ultimement, sa place ne serait pas dans ce monde ici-bas. Il savait que pour nous également, ce monde ici-bas n'est pas la meilleure des places. Il est venu nous emmener avec lui, il est venu s'incarner et mourir sur une croix. Jean 14, 1 à 3 nous dit ceci, l'un des derniers discours de Jésus à ses disciples : Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Et croyez-moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est venu sur terre pour nous sauver et pour nous préparer une place. C'est pourquoi le dernier verset de ce qu'on a lu tout à l'heure au chapitre. Au verset 16, chapitre 1 de Hébreux nous dit « C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu, car il leur a préparé une cité. » Je vous lisais un livre de John Piper sur l'hédonisme chrétien qui disait « Dieu est le plus glorifié quand nous sommes le plus satisfaits en lui. » Et je me permets de rajouter « Lorsque nous avons également vu cette cité céleste et qu'elle fait notre joie. » Dieu a permis cette cité céleste en devenant un pèlerin le premier. Lui qui était dans les lieux très hauts est allé jusqu'à s'abaisser, jusqu'à mourir la plus horrible des morts sur une croix pour que nous puissions, que tu puisses, si comme Abraham et Sarah, tu places ta foi en lui, ta confiance en lui, vivre à ses côtés dans cette cité céleste, dans cette cité non pas temporaire mais éternelle, dans cette meilleure des places. Et ça me permet d'embrayer sur l'ultime motivation dont je vous parlais tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous partager une petite image qui vient de Benjamin Daran, qui vous souhaite également d'ailleurs le bonjour pour ceux qui le connaissent, sur la définition du paradis pour les témoins de Jéhovah. Leur définition du paradis, c'est la suivante, un endroit où il n'y aura plus de méchanceté, plus de guerre, plus de criminalité, plus de violence. Un endroit où nous vivrons en sécurité, un endroit où il n'y aura plus de famine. Un endroit où toute la terre deviendra un paradis magique, magnifique, pardon. Où il y aura la paix entre les humains et les animaux, où la maladie même disparaîtra, où nos chers disparus reviendront à la vie. C'est vrai que quand on lit ces choses-là, ça nous donne envie. On dit, ah ouais, face à cette vie temporaire dans laquelle on vit, ça nous donne envie d'aller dans cette cité éternelle, si c'est tout ce qu'il y aura. Plus de méchanceté, plus de guerre, plus de famine, plus de maladie. Paradis magnifique. Sauf qu'en fait, ce que je viens de vous présenter là, ce n'est pas le paradis, mais c'est l'enfer. Pourquoi ? Parce que si on y réfléchit bien, il manque une chose plus importante que toutes ces choses-là. Il manque la notion du Sauveur qui règne. Il manque Jésus. Parce que toutes ces choses, s'il n'y a pas Jésus, alors ce n'est pas le paradis, mais c'est l'enfer. La motivation du chrétien, lorsque je vous disais tout à l'heure, on aspire à cette meilleure place, ce n'est pas pour toutes ces choses. Même si ce sont des bonnes choses et qu'on peut y aspirer, c'est pas là. Ça ne devrait pas être notre aspiration principale. Sa motivation pour se rendre, c'est pas ces choses-là, s'il pourrait rencontrer son Sauveur, Jésus, et vivre l'éternité à ses côtés. Ce qui compte, ce n'est pas la cité, mais le Sauveur. Ce n'est pas la place, mais la personne qui y habite. Ce qui devrait orienter notre vie, ce n'est pas ces choses-là qu'on en veut. Ce ne sont pas les délices du paradis, ou combien sont souvent intéressants et qui nous donnent envie, et surtout l'éternité avec celui qui en est le roi. C'est se dire qu'un jour, dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs avec toutes ces choses-là. C'est un verset qui est tiré du psaume 84, également appelé le psaume du pèlerin. Je vous invite à relire ce soir si vous avez le temps. Jésus, c'est le modèle, mais également la motivation ultime du pèlerin. Ce qui compte, ce n'est pas la cité, mais le Sauveur. Ça me permet de conclure sur ces questions-là. Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que toi aussi, tu as envie cette éternité avec Christ ? Non pas simplement les délices, mais la présence de celui qui en est. Est-ce que cette promesse que Jésus t'a préparé une place façonne ta vie, tes décisions, tes plans, tes priorités ? Est-ce que la manière dont tu gères ton temps, ton argent, orienter pour ton confort, ta sécurité, ou est-ce qu'elle a en vue cette cité céleste? Es-tu conscient également que cette cité, tu ne la mérites pas? Et qu'un médiateur est venu pour intercéder auprès du Père et pour t'y préparer une place par sa mort et sa résurrection? Pourras-tu dire à la fin de ta vie comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi? C'est mon invitation aujourd'hui pour vous, qu'on puisse, comme Abraham, comme Paul, comme William Borden, comme beaucoup d'autres, à suivre Christ et vivre une vie qui soit sans réserve, sans retour et sans regret. Qu'on puisse, nous aussi, être des pèlerins de Christ. Je vais prier en cœur son nom. Père, merci pour ces rappels qu'on ne méritait pas cette cité, qu'on ne méritait pas ces délices, qu'on ne méritait pas ta présence de par nos fautes, de par nos chutes. Mais que tu as quitté la gloire de ton ciel, que tu es venu sur terre pour rétablir la relation avec Dieu. Père, si nous sommes ici sur terre, ce n'est pas pour notre confort, notre sécurité, mais pour vivre une vie qui soit conditionnée par toi. Merci parce que tu n'es pas simplement notre GPS, tu n'es pas simplement notre guide. Mais tu es notre ami, notre appui, notre soutien. Tu es notre roche, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. notre Seigneur. On puisse vivre notre vie qui soit conditionnée pour toi, une vie sans retour, sans regret et sans réserve. Amen. Et donc, on va enchaîner sur ce chant dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir un jour dans tes parvis, 384, avant que la serre passe aux annonces. Oui, merci.